Tout de suite, le journal d'Haïti et des Amériques, et c'est avec vous Anne Verdaguet, bonjour.
Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et on va revenir aujourd'hui sur les manifestations hier un peu partout aux États-Unis après cette décision de justice. Les deux policiers blancs qui ont abattu une femme noire en mars dernier à Louisville ne seront pas poursuivis. Seul un troisième sera poursuivi, mais pas pour homicide. Manifestations qui ont dégénéré dans cette ville du Kentucky où deux policiers ont été blessés hier soir. Le dernier hommage de toute une nation à la juge de la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg, décédée la semaine dernière. Donald Trump doit se recueillir aujourd'hui devant sa dépouille. Et puis au Mexique, plus de 1400 soignants ont perdu la vie depuis le début de la pandémie du coronavirus. On entendra les témoignages recueillis par Alix Hardy. Bonjour Arim Lipold.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
La revue de presse des Amériques avec vous. Aux États-Unis, la colère monte à nouveau après la décision de la justice d'inculper un seul des trois policiers qui ont tué la jeune afro-américaine Breonna Taylor à Louisville en mars dernier.
Oui, c'est le grand sujet à la une de la presse américaine ce matin, Anne. Le New York Times titre sur la reprise des manifestations dans plusieurs grandes villes américaines après ce jugement. Colère à Louisville, peut-on lire par exemple sur la manchette du New York Post. Alors comment cette colère s'exprime-t-elle? Eh bien, c'est à découvrir dans le quotidien local de Louisville, le Courier Journal. L'un de ses reporters a accompagné les manifestants rassemblés à Jefferson Square Park lors de l'annonce du verdict et ils avaient du mal à y croire. Seulement un policier visé par une charge, à savoir mise en danger de la vie d'autrui et une caution fixée à 15 000 $. Cela montre qu'il ne va pas passer beaucoup de temps en prison, explique une manifestante. Une autre hurle, mais ils ont quand même tué Breonna Taylor. D'autres personnes se mettent à pleurer, raconte le reporter. Avant de se disperser, la foule commence à chanter « No justice, no peace », »,« Pas de justice, pas de paix ». Le Washington Post rappelle que ce jugement a été précédé par un accord sur une indemnisation de la famille de la victime, une indemnisation à hauteur de plusieurs millions de dollars. Mais tout cet argent, écrit le Washington Post, ne peut pas faire oublier que Breonna Taylor n'aurait pas dû mourir.
Autre sujet à la une aux États-Unis, le dernier hommage des Américains à Ruth Bader Ginsburg, la juge de la Cour suprême décédée vendredi dernier à Washington. Son cercueil repose désormais devant la plus haute instance judiciaire du pays. Les Américains qui sont venus depuis hier matin saluer sa dépouille. Le reportage de notre envoyée spéciale permanente à Washington, Anne Corpé.
Je suis venu de Pennsylvanie pour lui rendre hommage, déclare Nathan, un masque à l'effigie de Ruth Bader Ginsburg sur le visage. Dans la foule, les traits de la célèbre juge ornent de nombreux t-shirts. Des anonymes, mais aussi des personnalités politiques, comme le sénateur Bernie Sanders, accompagné du chef de la minorité démocrate à la Chambre haute, Chuck Schumer.
C'était une femme incroyable, elle n'abandonnait jamais face à l'adversité, et nous non plus, nous n'allons pas abandonner.
Mais dans la foule, beaucoup s'inquiètent. L'arrivée annoncée d'un nouveau juge conservateur à la Cour risque de signer le démantèlement des lois défendues par la célèbre juge. Suzanne Maro est venue de Caroline du Nord.
Je suis très inquiète pour l'arrêt Roe contre Wade. Les avortements ne vont pas s'arrêter. Ils vont avoir lieu dans les arrière-cours et seront pratiqués par des médecins non qualifiés. C'est ma plus grande préoccupation.
Impossible de s'approcher du cercueil placé en haut des marches du temple du droit américain. La foule défile silencieusement au pied de cet imposant escalier. Sur son lit de mort, RBG avait émis le souhait que son remplaçant soit désigné après l'élection présidentielle. Donald Trump ne respectera pas cette dernière volonté, mais viendra ce jeudi lui rendre hommage devant la Cour suprême. Anne Corpé, Washington, RFI.
Arim, au Brésil, ce pas en avant pour rendre justice aux victimes de la dictature. Le constructeur automobile allemand Volkswagen va indemniser les anciens salariés de sa filiale au Brésil pour des violations des droits de l'homme.
Oui, selon la Folha de São Paulo, l'accord passé avec la justice brésilienne prévoit le paiement de 36 millions de reais et à peu près 6,5 millions de dollars en compensation. Alors environ la moitié de cette somme est destinée aux anciens salariés et à leurs familles. Une enquête indépendante lancée en 2015 par le constructeur allemand lui-même est arrivée à la conclusion suivante. Volkswagen a bel et bien coopéré avec l'appareil répressif du régime militaire, écrit le journal de São Paulo. Les ex-salariés ont demandé des réparations, faisant valoir que le service de sécurité de Volkswagen a aidé la dictature à identifier d'éventuels suspects qui par la suite ont été arrêtés et torturés. Un dirigeant de l'entreprise allemande a déclaré que le constructeur regrettait les violations et que c'était important d'assumer la responsabilité de ce chapitre négatif de l'histoire du Brésil et d'encourager la transparence. Et selon un historien allemand, eh bien cet accord est historique. C'est la première fois, en fait, depuis la réparation de la Seconde Guerre mondiale, qu'une entreprise allemande reconnaît la responsabilité de ses employés pour des violations des droits de l'homme. Et cet accord, Anne, sera officiellement signé ce jeudi à Sao Paulo.
L'épidémie de Covid-19 qui prend de l'ampleur un peu partout dans le monde et aussi au Canada. Lors de son discours du trône, le Premier ministre Justin Trudeau a appelé hier les Canadiens à redoubler d'efforts pour que la deuxième vague de la pandémie ne soit pas pire que la première. Il a aussi promis de créer 1 million d'emplois. La correspondance à Québec de Pascal Guéricola.
On est à la croisée des chemins. Et l'avenir est entre nos mains.
Le premier ministre canadien a mis ses concitoyens en garde. S'ils veulent combattre cette seconde vague de Covid-19, qui doivent absolument prendre davantage de précautions et réduire leurs contacts sociaux. Conscient que de nombreuses entreprises risquent de souffrir d'un resserrement de l'économie, Justin Trudeau préconise des investissements publics accrus. Aide directe aux salariés et aux entrepreneurs et création d'un million d'emplois, voilà la solution de Justin Trudeau face à la crise qui s'annonce.
On va bâtir une société meilleure pour tous en rendant du même coup l'économie meilleure pour tous. Le logement, c'est pas juste un problème, c'est aussi une solution. Ça crée des emplois, ça permet aux gens de s'épanouir et de contribuer.
La lutte au changement climatique fait également partie des priorités du gouvernement. Cette série d'annonces inquiète cependant les partis d'opposition, mais aussi de nombreux experts. Face à un déficit public qui atteint déjà près de 220 milliards d'euros, ils se demandent comment le Canada va pouvoir rembourser une dette aussi colossale qui ne cesse de grimper. Pascal Guéricola, Québec, RFI.
On prend la direction de la République dominicaine à présent à Rim, où des entrepreneurs vénézuéliens proches du chavisme ont massivement investi dans le tourisme.
Oui, selon le Diario Libre, ce clan d'entrepreneurs, selon le journal, qui dans le passé avait obtenu d'importants contrats publics des gouvernements de Chavez et de Maduro, a lancé un grand projet hôtelier de 100 millions de dollars à Punta Cana, au lieu du tourisme caribéen. Ce projet date de 2013, l'année de la mort de l'ancien président Hugo Chavez, mais pour certains entrepreneurs impliqués dans ces investissements, eh bien, l'aventure a mal tourné, selon Diario Libre. Ils sont aujourd'hui en détention au Venezuela, accusés, entre autres, de blanchiment d'argent.
Et pour terminer à Rim, le Washington Post révèle que le Premier ministre israélien a porté à chaque visite aux États-Unis, et c'est original, des valises de linge sale en demandant qu'il soit nettoyé sur place.
Oui, exactement. Ce service de blanchisserie à Washington est disponible, en fait, gratuitement à tous les chefs d'État et de gouvernement étranger, mais personne n'a utilisé autant de fois et avec autant de linge que Benjamin Netanyahou. Selon le Washington Post, le Premier ministre a toujours refusé de communiquer auprès de l'opinion publique israélienne le montant de ses factures de blanchisserie.
Merci beaucoup Harim Lipold pour cette revue de presse des Amériques.
RFI, Las Voces del Mundo.
Direction le Mexique à présent. Ils sont en première ligne face au coronavirus. Ce sont les soignants. Selon un rapport d'Amnesty International publié début septembre, plus de 7000 travailleurs de la santé sont décédés à travers le monde depuis le début de la pandémie. En tête de ce triste classement, le Mexique recense plus de 1400 médecins, infirmiers, brancardiers ou encore agents de propreté qui ont perdu la vie durant la pandémie. Depuis Mexico, écoutez les témoignages recueillis par Alix Hardy.
Damaris Navarro est médecin dans un hôpital public Covid de Guadalajara, dans l'ouest du pays. Elle sort tout juste d'une double journée de travail.
Le personnel soignant aussi tombe malade. Dernièrement, j'ai un collègue qui a commencé à se sentir mal. Et voilà, pas le choix, j'ai dû rester pour le remplacer. Dans le service, il y a 18 médecins. On est 4 à ne pas avoir attrapé le virus encore. Je dirais que quasiment 60% du personnel hospitalier est actuellement en arrêt maladie. C'est énorme.
Plus de 97 000 soignants ont contracté le virus au Mexique. Parmi eux, Yvette Diaz, infirmière en soins intensifs à l'hôpital La Raza de Mexico. En août, elle est tombée malade ainsi que toute sa famille.
Quand et comment, je ne sais pas, mais j'ai toujours dit que ça m'arriverait. L'apport est constant à partir du moment où tu mets un pied dans le service. Et elle reste là, latente, toute la journée. Quand on est tombé malade, l'état de ma mère âgée s'est tout de suite dégradé et elle est entrée en soins intensifs. Je me suis sentie en colère d'avoir pris le risque et impuissante, car ma mère pouvait tout aussi bien guérir ou ne jamais ressortir de l'hôpital. Heureusement, je n'ai aucun décès à déplorer. Mais j'ai des collègues qui ont perdu la vie, des membres de leur famille.
Plus de 1400 soignants sont officiellement décédés de la Covid-19 au Mexique. En France, c'est moins de 100. Un décompte qui vaut au Mexique d'apparaître en tête du classement mondial, alors que tous les pays sont loin d'avoir des chiffres aussi détaillés. Le Brésil, par exemple, qui souffre d'une épidémie massive, ne recense que 240 décès parmi ses soignants. Même avec des données partielles, une réalité saute aux yeux de la directrice de l'Organisation panaméricaine de la santé.
Le continent américain a le plus lourd bilan de travailleurs de la santé infectés dans le monde. Aux États-Unis et au Mexique, les soignants représentent un cas sur sept. Ces chiffres sont alarmants et ils posent cette question brûlante. Pourquoi autant de personnels de santé sont-ils contaminés?
Les soignants ont la réponse.
On est plusieurs à le penser. Le premier problème, c'est le manque d'équipement.
Le manque de matériel n'est pas un problème récent dans un système de santé publique négligé depuis des décennies. Selon une étude de l'Organisation panaméricaine de la santé, c'est près d'un travailleur de la santé sur deux qui n'a pas reçu d'équipement de protection durant la pandémie au Mexique. Et quand l'équipement arrive...
Le matériel qu'on nous donne est de mauvaise qualité. Je suis tombée plusieurs fois sur des masques perforés ou qui se décousent. Les gants se trouent, les blouses sont si fines qu'on les déchire sans qu'on s'en aperçoive. On finit par constituer chacun notre petite réserve et par les cacher. Et puis on a acheté plusieurs choses de notre poche. Lunettes, visières, gants. Vu le nombre d'infections, on préfère payer et se protéger.
240 000 médecins manquent également à l'appel, ont reconnu les autorités sanitaires. Face à la pandémie, elles en ont embauché 50 000 au pied levé.
On n'est toujours pas assez. Un médecin assure le travail de trois médecins. Par exemple, si je suis seule et que d'un coup un patient fait un arrêt cardiaque, je lâche tout car ma priorité c'est de le sauver. Mais je le fais avec la peur au ventre, en craignant qu'il y ait des patients dehors qui aient besoin d'être hospitalisés et placés sous oxygène en urgence.
Au Mexique, les soignants doivent en plus composer avec des agressions d'une frange de la population à leur égard. Pour certains citoyens, les blouses blanches sont les représentants d'un système qui ne garantit pas leur droit à la santé. Yvette et Damaris en ont toutes les deux fait les frais. Au début de la pandémie, elles ont été arrosées de chlore dans la rue.
Si les gens savaient les risques qu'on prend, les sacrifices qu'on fait, tout ce qu'on achète de notre poche pour aider les patients, alors recevoir un traitement pareil, je n'ai même pas les mots pour exprimer à quel point c'est moche, à quel point tout ça est dur.
Alix Hardy, à Mexico pour RFI.
L'actualité des Outre-mer à présent avec le journal La Première, présentée par Tiziana Marron. Bonjour Tiziana.
Bonjour Anne.
À la une, l'épidémie de Covid-19 et la Guadeloupe placée en zone d'alerte maximale.
Oui Anne, avec 1049 cas de plus par rapport au dernier bilan, le département fait partie avec Marseille et Aix des trois régions françaises où le seuil épidémique est au plus fort. Le gouvernement a annoncé hier des mesures spécifiques. En Guadeloupe, les bars et les restaurants vont devoir fermer pendant 2 semaines à compter de ce samedi. Un coup dur pour les restaurateurs. Écoutez Léa Elfassi, gérante de plusieurs bars. Elle est au micro de Sébastien Gilles de Guadeloupe La Première.
Nous, c'est à ne pas dormir la nuit, c'est à se poser des questions, comment on va faire pour payer nos employés, comment on va faire pour payer nos fournisseurs. On a des bailleurs qui ne font pas cadeau quoi que ce soit, donc c'est des loyers qui sortent tous les mois. Donc où on va et jusqu'à quand? Toujours ce sont les bars, les restaurants. Quand les centaines de personnes prennent l'avion, il ne se passe rien. Quand on va tous, comme disait un de mes confrères, quand on va tous chez Carrefour, il ne se passe rien. Là, on arrive quand même à contenir des gens assis sur une même table, être entre eux. Il n'y a pas des allées et venues toutes les 5 minutes, les services se font à table. Et aujourd'hui, on nous interdit de travailler, clairement.
Et au vu de la dégradation de la situation, le service de santé des armées sera déployé dans l'île d'ici la fin de la semaine en renfort dans la lutte contre l'épidémie. À Martinique, en bref, un deuxième cas de Covid-19 déclaré à la prison de Ducos. Il s'agit d'un agent du service d'insertion des détenus. Les résultats du test pratiqué sur un prisonnier en contact avec cet agent sont attendus pour déterminer la généralisation du dépistage au sein de la prison. Et on termine avec cette polémique autour d'un livre scolaire qui a été repris dans une école primaire de Martinique. L'ouvrage en question s'intitule « Sambo, le petit noir », un récit écrit en 1899 par une autrice écossaise, Hélène Bannerman, et qui comporte des stéréotypes et des illustrations racistes. Sa réapparition dans une classe de CE1 a provoqué la colère des parents. C'est le cas de Lisa. Son témoignage au micro Martinique la Première de Claude Gracien.
Premier exercice, on lui demande de remettre des étiquettes dans l'ordre pour reconstituer le titre, donc Sambo le petit noir. Donc sur cette première page d'exercice, le bon noir apparaît déjà 3 fois, donc ça commence à me poser problème. Deuxième chose, il y a un exercice de compréhension qui était proposé aux élèves, avec 3 questions auxquelles ils devaient répondre, dont la première était « Qui est Sambo ?» L'enfant a répondu « Sambo est un garçon et c'est un enfant ». Ce à quoi l'institutrice a barré la réponse de l'enfant et elle a écrit « peu sérieux », alors que bon, moi je trouve que la réponse est parfaitement adaptée. Et la réponse qu'elle a accordée à la classe, c'est un garçon noir ».
Et dans un courrier, le député de Martinique, Serge Letchimy, interpelle le ministre de l'Éducation et le recteur et leur demande le retrait pur et simple de cet ouvrage. Et c'est la fin de cette édition. À demain.
À demain. Merci à vous, Tiziana Marron.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Et on part tout de suite en Haïti pour retrouver Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste. Bonjour Franz.
Bonjour Anne.
À la une de votre édition aujourd'hui, la décision du président Jovenel Moïse d'installer un conseil électoral provisoire. Cette décision provoque toujours de fortes réactions et semble pousser Haïti dans une nouvelle crise. Pourquoi ?
Bon, pourquoi ? Parce que le président fait les nominations des nouveaux membres du conseil électoral sans concertation avec les forces politiques, sans concertation avec la société civile. Le président a été tout seul vendredi soir dernier, il a publié un arrêté qui a institué ce nouveau conseil, et dans l'arrêté, la première mission confiée au conseil électoral, c'est de faire un référendum pour changer la constitution en Haïti. Il faut dire que dans la longue tradition des conseils électoraux en Haïti depuis 1987, il n'y a pas l'organisation de référendum dans les missions assignées au conseil électoral. C'est déjà une raison pour la crise que nous connaissons. Il se trouve aussi que le conseil est entré en fonction sans avoir prêté serment de respecter la Constitution.
Franz, dans votre édition du jour, il n'est pas seulement question de prochaines élections en Haïti, mais aussi d'une nouvelle Constitution.
Tout à fait. Et là, c'est tout le paradoxe. Pour nommer le conseil électoral, le président a cité la Constitution en vigueur. C'est la loi, c'est le règlement. Sauf qu'il demande à ce conseil électoral de faire le référendum pour changer la Constitution. Alors que dans la Constitution qui est citée pour nommer le Conseil, il est écrit nommément que les référendums sont interdits en Haïti pour changer la Constitution. Alors, les conseillers du président jouent sur les mots. On ne va pas amender la Constitution, on va faire une nouvelle Constitution, mais on cite la Constitution qui empêche de faire le référendum. Tout ça pour dire qu'Haïti est en train de plonger dans l'illégalité pour essayer de trouver la stabilité.
À la une du Nouvelliste également ce jeudi, il est encore une fois question du taux de change entre la gourde et le dollar. Cette fois-ci, la situation est vue depuis la ville de Léogâne.
Une petite ville et au sud de Port-au-Prince, mais une petite ville où une situation quasiment pareille à toutes les villes en Haïti est en train d'être vécue. Le dollar, qui est la monnaie de référence en Haïti, a perdu du terrain face à la gourde, qui est la monnaie nationale. Alors, les Haïtiens épargnent en dollars, mais dépensent en gourde. En moins d'un mois, la gourde a gagné 50 points sur le dollar, c'est-à-dire il fallait 120 gourdes pour un dollar il y a de cela un mois. Aujourd'hui, il en faut 70. Et dans la ville de province de Léogâne, c'est même 65 gourdes qu'on offre pour un dollar. Ce qui signifie que les gens sont en train de perdre leur épargne, la valeur de leur épargne. Les Haïtiens de la diaspora qui envoient des transferts vers leurs parents doivent envoyer beaucoup plus de dollars pour que les gens puissent avoir le même nombre de gourdes. D'autant que les produits sur les marchés, ça prend du temps pour que les baisses soient affichées comme cela arrive pour le dollar. Il faut dire que c'est chaque jour que le dollar perd 1 point, 2 points, 3 points. Hier, c'était même 4 points en une journée. Et cela contrarie les finances et les ménages qui doivent s'ajuster au jour le jour. C'est pas la hausse, cette fois c'est la baisse, mais ça cause autant de problèmes.
Merci beaucoup, Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste en Haïti. Très bonne journée à vous. Et c'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain 15h10 heure de Paris, 9h10 heure de Port-au-Prince. En attendant, n'oubliez pas les réseaux sociaux et le site de RFI, www.rfi.fr. Très très bonne journée à tous.
RFI, c'est aussi sur notre site mobile m.rfi.fr et sur nos applications iPhone et Android.